Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on est le 3 mai 2025, puis on se penche sur plusieurs événements importants en Afrique, d'après les infos d'Africa Presse.
Salut.
Au programme, il y a eu une investiture présidentielle au Gabon, un gros changement constitutionnel au Togo. On va parler aussi de la liberté de la presse, c'est pas facile partout, puis la situation humanitaire au Soudan du Sud qui est assez critique.
Oui.
Notre objectif, ben, c'est d'essayer de décortiquer tout ça là, pour voir ce que ça signifie vraiment.
Exactement. On va essayer de voir comment ces événements s'inscrivent dans un portrait plus large. T'sais. Ça touche aux transitions politiques, mais aussi aux droits humains, à la liberté d'expression, des affaires vraiment fondamentales pour le continent.
Parfait. Alors, commençons par le Gabon, si tu veux bien. Brice Oligui Nguema a été officiellement investi président aujourd'hui.
Mm-hmm.
Il avait gagné l'élection du 12 avril avec un score assez massif, là, 94,85%. Ça marque, en théorie, la fin de la transition après le coup d'État d'août 2023.
C'est ça.
La cérémonie à Ngangé, c'était quelque chose. Près de 40 000 personnes, puis 16 chefs d'État africains étaient là. Gros symbole.
Ah oui, un symbole fort, c'est sûr. Puis il a prêté serment sur la nouvelle constitution, celle de la 5e République, qui avait été adoptée par référendum en novembre 2024. Fait que ça signale un retour à l'ordre constitutionnel, là.
OK.
Même le facilitateur de la CEAC, le président centrafricain Touadéra, a dit que le processus était exemplaire. Bon.
Exemplaire, carrément.
Ouais. Maintenant, le vrai défi, ben, c'est de voir si ce retour à l'ordre va vraiment amener le développement promis, puis si les nouvelles institutions vont réussir à faire mieux que les anciennes, tu sais.
C'est la grosse question. Pendant ce temps-là, ça brassait pas mal au Togo aussi aujourd'hui, mais d'une autre façon. Faure Guinea-Singbé a prêté serment comme président du Conseil.
Oui.
C'est le résultat de la réforme constitutionnelle de 2024 qui a mis en place un régime parlementaire. La veille république, qu'ils appellent ça.
Mm-hmm.
Fait qu'il reste aux commandes de l'exécutif, mais sous un autre titre.
Oui, c'est exactement ça. Et ce qui est assez fascinant, c'est un peu l'ingénierie derrière ça, là. Les pouvoirs du président de la République sont réduits, d'ailleurs. Il est même plus élu directement par le monde, mais par le Congrès.
Ah, OK.
Par contre, les pouvoirs du président du Conseil, le poste que Guinea-Singbé occupe maintenant, eux sont renforcés. Le gouvernement dit que c'est pour la stabilité.
Ouais, mais j'imagine que ça passe pas comme une lettre à la poste pour tout le monde.
Ben non, c'est ça. Nos sources montrent que l'opposition puis une partie de la société civile sont pas du tout d'accord. Ils parlent de recul démocratique.
Recul démocratique.
Certains vont même jusqu'à parler de coup d'État institutionnel. L'idée, c'est que ça consolide le pouvoir de la famille Guinea-Singbé, qui est là depuis 2005, tu sais.
Ouais, ça fait un bout.
Fait que ça pose de vraies questions sur l'équilibre des pouvoirs, puis sur la vitalité de la démocratie dans ce nouveau système. C'est encore tôt pour voir toutes les conséquences, mais la controverse est bien là.
Et aujourd'hui, 3 mai, faut pas oublier, c'est aussi la Journée mondiale de la liberté de la presse. Puis les dépêches qu'on a vues, le portrait est pas super rose dans certains pays. On parle du Cameroun, du Bénin, du Tchad.
Oui, c'est assez préoccupant en effet. Au Cameroun, par exemple, avec la présidentielle qui s'en vient en octobre, on rapporte un climat de peur. L'affaire Martinez-Zogo, le journaliste assassiné en 2023, puis dont l'enquête avance pas beaucoup, ça pèse encore. Puis il y a la crainte de sanctions du Conseil des médias si tu critiques le pouvoir, ou même si tu abordes des sujets comme ben, l'âge du président Biya qui a 92 ans. Fait que ça mène à l'autocensure.
C'est lourd. Puis ça continue ailleurs, tu disais, au Bénin, par exemple?
Oui, au Bénin, la HAC, l'autorité de régulation, a donné pas mal de sanctions à des médias indépendants dernièrement. Des suspensions, des avertissements.
Ah oui?
Ouais. Des ONG comme Amnesty puis Reporters sans frontières s'inquiètent beaucoup. Elles espèrent que la révision du code du numérique va amener plus de protection, mais c'est pas garanti, là.
Puis au Tchad?
Au Tchad, t'as le cas du journaliste Olivier Monodi. Ça fait quasiment 2 mois qu'il est détenu, puis apparemment sans accusation claire. Beaucoup voient ça comme un signe de répression pour faire taire les critiques.
C'est décourageant. On termine ce tour d'horizon avec une nouvelle vraiment tragique qui vient du Soudan du Sud. Un hôpital de Médecins sans frontières à Old Fangak a été bombardé aujourd'hui.
Oui, une attaque terrible. Le bilan, pour l'instant, c'est au moins 7 morts, 20 blessés. C'est énorme.
Mon Dieu.
Puis cet hôpital-là, il était crucial. Il servait plus de 40 000 personnes dans une zone de conflit où l'accès aux soins est quasi inexistant, là.
C'était leur seul recours, j'imagine.
Probablement. La pharmacie, le matériel, tout était détruit. MSF dénonce ça comme une violation flagrante du droit international humanitaire, évidemment.
C'est absolument effroyable. Ça montre à quel point les civils sont vulnérables, mais aussi les travailleurs humanitaires qui essayent d'aider dans des conditions pareilles.
Absolument. puis ça compromet encore plus l'avenir des soins dans cette région qui vit déjà une crise humanitaire gravissime depuis l'indépendance en 2011. C'est un cercle vicieux.
Mm-hmm. Fait que pour résumer cette journée du 3 mai 2025 en Afrique, on voit beaucoup de contrastes. D'un côté, des étapes politiques importantes au Gabon et au Togo qui visent la stabilité, même si elles font jaser.
Mm-hmm.
Puis de l'autre, des rappels vraiment brutaux, des menaces qui pèsent sur la liberté de la presse et sur la sécurité des gens ordinaires.
Exactement. Puis ça nous amène à une question de fond, je pense. Au-delà de l'actualité du jour, comment est-ce que ces transitions politiques, même quand on les présente comme des réussites, peuvent vraiment mener à la démocratie puis au développement si, en même temps, des fondations aussi essentielles comme la presse libre puis la protection des civils sont si fragiles ou, pire, sont attaquées juste à côté?
C'est un bon point.
Si ces bases-là sont pas solides, quelle est la vraie solidité des changements politiques qu'on essaie de mettre en place? Ça montre toute la complexité du chemin vers un progrès réel et durable sur le continent. Une réflexion à poursuivre, certainement.
Absolument. Merci beaucoup pour cet éclairage.
Merci à toi.